D'abord, peut-être comment est née l'idée de cette réédition, mais réécriture aussi.
Ouais, c'est né en fait de Maurice Dantec qui avait été très marqué par la lecture de Locomotive Rictus et qui considérait en fait que ce livre était le trait d'union entre la fiction traditionnelle, enfin ancienne, et la fiction spéculative qui arrivait. Et il a dit, mais c'est vraiment le moment parce que c'est. Pour lui, ça marquait vraiment cette époque-là. C'est bizarre, c'est en France que ça s'est passé. C'est un peu comme si le punk en SF était né en France et pas à Londres, quoi. Donc il y tenait beaucoup. Et comme il travaillait à l'époque avec David Kersant des éditions Ring, ils ont décidé de le faire. Bon, j'ai dit ok, mais faut que j'ai écrit ça, j'avais 18 ans. Donc je vais quand même gommer les traces d'acné, quoi. Parce que quand j'avais lu un petit peu quelques passages, je me suis dit ouf, ça pique les yeux quand même. Donc je vais au moins faire ce travail-là. Et puis c'est impossible de demander à un écrivain de ne pas écrire, quoi. C'est comme donner une entrecôte à un mort de faim, c'est-à-dire que j'ai tout réécrit pratiquement parce que. Bah oui, parce que Locomotive Rictus, c'était un hurlement, c'était défini comme un hurlement au départ, c'était pas un roman. Donc j'en ai fait un roman cette fois-ci. C'était très très bizarre. D'abord, il y a un vrai plaisir de retrouver le goût de l'écriture après de passer longtemps sur le scénario. Mais le fait de faire renaître et de respecter la colère de cet adolescent, quoi, en fait, de retrouver cette énergie, de la respecter, et en même temps y amener la maturité, enfin, que j'ai dû prendre en 40 années quand même.
C'est 73, la publication Locomotive Rictus au milieu des années 70.
Ouais, je l'avais écrit avant qu'il soit publié d'ailleurs, en fait. Mais c'était à l'époque aux éditions Opta, j'avais publié mes premières nouvelles dans fiction. Et Alain Doremieux, qui était rédacteur en chef, m'a dit, mais t'as pas un roman? Ouais, j'ai ça, mais c'est vraiment c'est le briquet de broc, quoi. Enfin, il a voulu le lire, il a dit, ouais, non, mais je prends.
Vous vous souvenez un petit peu justement et de l'écriture qui s'appelait Locomotive Rictus à l'époque et de cette période-là?
Visiblement, j'étais très en colère, ça se voit.
Ça sent,
c'est clair. Je pense que c'est un âge où on n'a pas beaucoup d'humour non plus, donc quand j'ai redécouvert ça, en fait, j'ai absolument tout changé, sauf des passages que je comprenais pas du tout. Les passages, oui, ils essayent de décoder les propos du fœtus sous hallucinogène. Quand j'ai relu ça, je dis, mais je peux pas changer parce que je comprends pas ce que je voulais dire, en fait. Alors, comme c'est un personnage ambigu qui manipule les gens, il fait exprès de pas être vraiment décodable comme ça, j'ai laissé ça tel que, c'est pas. Mais tout le reste, bon, j'ai ajouté un peu d'humour aussi parce que franchement.
On sent la colère de contrôleur établi,
Oui, il y a tout ça y était. Maintenant, ben, ça a pris. Ça n'a pas vieilli, quoi, la situation. N'a pas fait qu'empirer, mais c'est très bizarre la situation actuelle. C'est qu'on sent bien globalement à travers tous les réseaux sociaux, etc., que les gens ont envie vraiment d'un changement, mais d'une révolution, mais ils ne savent pas comment faire.
C'est un livre qui effectivement est dans l'actualité, enfin est d'actualité entre guillemets.
Oui.
Ça fait bizarre de reprendre un livre comme ça qui reste très actuel. Alors que ça soit très, ça nous fait oui, quasiment 40 ans.
Ouais, non, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait la situation s'est encore tendue, quoi, en fait. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de choses. Qu'est-ce que j'ai. Ce qui est très embêtant toujours dans les livres qui ont une quarantaine d'années, dans les bouquins de SF qu'on voyait à l'époque, les couvertures des années 70, c'était vraiment symptomatique. On voyait des voitures volantes partout autour des immeubles. Où elles sont les voitures volantes, quoi? Pour représenter l'an 2000, on voyait toujours des voitures volantes. En 2012, il n'y a toujours pas de voiture autour de mes tours. Hein. Donc les futuribles, c'est très dangereux. C'est-à-dire que vous voyez des films de SF, par exemple, où, qui sont censés vraiment se passer dans un futur un peu lointain, où ils introduisent encore des disques souples dans des ordinateurs. C'est très curieux. Très dangereux, en fait. Parce que ça évolue une vitesse, c'est extrêmement rapide. Mais en fait, il y avait des choses dans la locomotive et dans locaux qui étaient. Notamment les métamorphes et tout ça, en fait, ça annonce déjà les surhumains, c'est enfin la recherche qui est en train d'évoluer extrêmement vite sur les implants, cette espèce de réalité augmentée. Ça va arriver, mais c'est vraiment demain pour le coup. On est prêt, je veux dire, je pense qu'aux prochains Jeux Olympiques, il y aura des gens qui, avec des prothèses, vont aller plus vite. Mais là, ça va poser un autre problème. Est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on légalise? Qu'est-ce que. Là, c'est. Mais ça a toujours été ça. C'est-à-dire, chaque progrès, il y a eu des conflits, des interdictions, etc. Mais il n'empêche que ça avance quand même, quoi.
C'était votre premier. Science-fiction, votre premier tout court. Puis il y a eu une longue période de SF, on en a parlé avec Argentine, ouais. Vautour. Quel regard vous gardez de cette période-là, qui fait 15 ans à peu près dans votre biographie?
Ben, c'était très bizarre parce qu'en fait, la SF, je suis arrivé aux éditions Fleuve Noir, où en fait, on m'a donné absolument toute liberté, quoi. J'ai écrit des livres, je sais pas si c'est insensé avec le recul de voir des livres comme Voyeur, etc. Enfin, des choses, et puis des choses que j'ai écrites extrêmement rapidement, sous le coup de la colère encore, comme Blue, qui a eu une carrière très, très, très étrange parce qu'en fait tout le monde connaît ce livre, il n'arrête pas d'être réédité. Mais là aussi, c'était Blue, j'ai écrit en 3 jours et 3 nuits, quoi.
Ah ouais, pardon.
Ouais. Moi, j'étais très en colère, je sais plus pourquoi. Enfin, je crois que j'avais écrit un livre où j'avais un petit peu cédé à la mode du space opéra, en fait, ça. Et les critiques avaient dit, ah tiens, Joël Loussin renonce à la violence et nous fait des fusées. Et des... Ah bon? Vous en voulez, je vais vous en donner, quoi.
C'est vrai. C'est quoi, c'était le colère? Enfin, ça fait plusieurs fois que vous employez le mot colère. C'est la colère qui était le carburant à l'époque. Parce qu'il y a de la colère dans les vautours.
Oui, j'ai toujours été en colère, mais je crois que tous les artistes sont en colère, quoi, en fait. C'est presque la moindre des choses d'être en colère contre l'ordre établi, quoi. Aujourd'hui encore plus qu'hier, quoi. C'est-à-dire que en France, on se rend compte que ça touche pas tellement le livre. L'audiovisuel, c'est terrible, quoi. C'est la police de la pensée, elle existe, quoi, réellement. Je vois que je regardais une série de SF suédoise, là, qui est de la vieille SF mais modernisée avec des robots domestiques. Enfin, mais ils vont plus loin que nous, c'est-à-dire qu'ils abordent franchement tout le côté sexuel avec les robots, etc. Je dis, si on fait une adaptation en France, on ne va pas pouvoir garder ça. C'est quand même dramatique ce constat. Parce que, du coup, le public, se tourne vers des séries américaines et bientôt vers des séries qui viennent du Nord, etc. Nous, on va être à la traîne.
Oui, enfin, le phénomène des séries américaines, c'est assez extraordinaire.
Ben, c'est normal, c'est-à-dire que tous les talents sont partis là-bas.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma pour adultes de série B n'existe plus pratiquement. C'est-à-dire que on fait des films pour les kids, quoi.
Ouais.
Maintenant, les très bons scénaristes vont chez Walt Disney. Ils vendent des scénarios avec le parc d'attractions qui va avec. Et les autres vont tous sur les chaînes, à la télévision, quoi, en fait. Aujourd'hui, c'est clair que des films comme Raging Bull, etc., même Le Parrain, hein, auraient peu de chances d'exister.
Ouais,
en fait.
Ouais. Vous l'avez senti, vous, en faisant des scénarios télé, comme ça?
Ah, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait encore il y a 10 ans qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Hein.
En termes de violence, de...
Ouais, mais de tous les sujets sont tabous. Hein, c'est dramatique parce que cette absence de liberté fait qu'il n'y a plus de création. On ne crée pas sans liberté. J'avais lu l'interview d'une directrice de la recherche à la Sorbonne, je ne sais pas, qui avait travaillé longtemps aux États-Unis. Et qui constatait un truc qui était très étrange, qui disait nos élèves en France sont meilleurs que les Américains, mais ils obtiennent beaucoup moins de résultats. Et elle disait la différence c'est la liberté. Ouais. Là on parlait de recherche fondamentale hein, des étudiants. C'est pareil dans tous les secteurs, c'est que on s'aperçoit que sans cette liberté, on ne crée rien, quoi. Vraiment. Et là, ça pèse lourd en ce moment. On est dans une époque de frilosité, on a peur, ce pays n'ose plus, quoi. Le siècle des Lumières est très loin derrière nous, en fait. C'est un peu dramatique, il n'y a plus de signature, il n'y a plus de... Une vraie peur, quelque chose chape de plomb qui pèse. Ouais.
Je sais pas comment l'enlever,
Il faudrait cesser d'avoir peur, mais pour cesser d'avoir peur, il faudrait d'abord aussi que les décideurs cessent d'avoir peur. Que ça prend une situation de précarité constante comme ça. Et à force de vouloir plaire à tout le monde, on ne séduit plus personne, quoi, en fait. C'est que cette quête de l'audimat, elle est légitime. Sauf qu'ils se trompent et qu'il y a une érosion et ils perdent quand même, quoi. C'est un petit peu dramatique pour l'instant pour la création française, mais ça ne fait qu'empirer. Moi, j'étais un petit peu optimiste il y a une dizaine d'années, quand j'ai vu arriver que les Françaises décidaient d'abandonner pour la télévision le format traditionnel de 90 minutes pour passer au 52. Et il y a de l'espoir quand même, déjà avec le changement de format, mais non.
Est-ce que c'est les choses que vous sentez dans le... avec la différence dans le monde littéraire où il y a encore entre guillemets cette liberté entre vous qui avez connu les années 70, 80, 90?
Ce qu'on ressent de semblable, c'est que là aussi la littérature commence à se faire pour les kids, quoi. Et la SF d'aujourd'hui, elle est de plus en plus faite pour les très jeunes lecteurs. La SF pour adultes, elle est libre. Il n'y a pas cette censure qui existe dans l'audiovisuel. Mais elle est sanctionnée par les blockbusters que constitue toute la littérature pour adolescents, quoi, en fait. Ça, c'est similaire. C'est qu'on voit un déplacement de la clientèle. Je trouve ça très bien que les jeunes lisent. Hein, c'est pas le problème. Quand ça devient l'essentiel du marché, c'est que les autres vont peut-être pas survivre, en fait.
C'est ça. La vague du young adulte, ses espoirs et ses conséquences aussi sur le marché.
Ouais, c'est la, choses dont il y a encore hein, des choses qui se passent en littérature, mais même en littérature générale, on voit que. D'ailleurs, le mouvement de la SF, c'est un peu curieux parce qu'en fait, on voit des choses aujourd'hui apparaître comme des nouveautés et qui se vendent énormément, que dans les années 70, on mettait à la poubelle tellement c'était déjà vieux.
Et oui.
Mais ça, on fait du neuf avec du vieux, hein, c'est bien connu, mais c'est.
C'est drôle que tout le monde redécouvre la dystopie, par exemple.
Oui, c'est des choses, on voit des gens, c'est ouais, c'est vachement bien, c'est nouveau. Ah, mais non, mais on connaissait déjà ça.
C'est clair.
C'est de la vieille SF, quoi. Mais c'est pas mal, ça se rend belle, hein, c'est comme la musique, hein, en fait, on retrouve les mêmes vagues qui reviennent. Mais qui sont considérés comme des nouveautés.
La question clé, vous avez réécrit donc Loco, est-ce que ça vous a donné envie de réécrire ?
Envie, oui. Maintenant, c'est tellement pas la même mécanique que le scénario. C'est très difficile. Il y a une jubilation du scénario quand on est un peu libre, c'est moins en moins le cas, mais qui réel, on a plus de... À la fois, c'est bizarre parce qu'on est maître du roman, personne ne va y toucher, ce qui n'est jamais le cas du scénario, qui est juste un outil de travail, en fait. Mais... Ouais, ça m'a redonné l'envie, franchement. Je sais pas si j'ai encore la force de travail pour le faire, mais je sais que si j'avais eu un peu plus de temps que les Jeux Olympiques pour faire Loco, j'aurais sûrement fait un très très gros livre avec ça.
Ouais. Il y avait matière en tout cas.
Ouais, ça roulait tout seul, je voyais bien qu'il y avait plein de pistes que je pouvais prendre. Mais bon, c'était bien aussi dans la vitesse, et, c'était... Il y a cette énergie-là qui... Voilà,
ça correspondait à la colère de l'époque aussi.
Oui, c'est bien que ça ne soit pas un roman trop long, quoi. C'est bien que ce ne soit pas un pavé, ça va vite. C'est juste méchant. Méchant, mais aussi plein d'espérance. C'est une vraie apocalypse, quoi. Il y a un renouveau. Mais c'est un peu désespérant. Mais bon, en même temps, j'ai ajouté quand même des choses... On fait rire. Quoi.
Ouais, c'est vrai, j'avais pas lu le premier du coup.
Ouais.
J'ai lu le coup. C'est quoi les passages que vous avez ajoutés ?
Tous les caractères des personnages sont différents. Ils ont du recul par rapport à leur situation. Il y a une méchanceté qui est plus jubilatoire, elle n'est pas seulement brute comme ça.
Ouais.
Dans le détail, je me souviens. Je sais pourquoi, en fait, c'est au dernier moment que j'ai ajouté la fin avec le fait qu'il y avait peut-être des hommes qui avaient survécu à cet apocalypse. En fait, je me suis dit, mais le père qui retrouve sa fille dans la bulle, là, c'est,
ouais.
Truc, je me dis, peut-être que ce mec-là ne mérite pas de mourir, quoi, en fait, lui et sa petite fille. Cette espèce de scrupule que j'ai eu, peut-être qu'il est parti, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres rééditions prévues ? On parlait des autres titres.
Il y a l'intégrale du Doberman déjà qui va.
Ouais. Toujours chez Ring.
Ouais, qui vont. C'est par 5 romans par volume, quoi.
Mm-hmm.
Ça c'est chouette parce que ça. C'est j'arrête pas de rencontrer des gens qui. Ouais, j'ai presque tout, mais il me manque deux.
Oui, c'est quand même un monument, quoi.
C'était une sacrée époque, le Doberman.
Ouais, c'est vrai.
Ah, ouais. C'est vraiment bien. C'était bizarre, hein, le Doberman, parce que c'est, je voulais faire que de la SF, en fait, et l'éditeur de Doberman me dit, mais tu veux pas faire un polar ?
Ouais.
Bon, moi, j'écris le Doberman américain, le premier, mais c'était un one-shot, quoi. Et il m'a dit, mais puisque tu en as fait un, tu peux en faire trois. Du coup, j'en ai fait 20.
Ouais, mais vous avez quasiment arrêté la SF ?
Ah non, c'était en même temps, ouais. C'est une époque où j'étais un peu fou, quoi. J'écrivais pratiquement 7 à 8 romans par an. Hein. J'arrêtais pas, je travaillais la nuit tout le temps, tout le temps, tout temps. Je quittais la machine que pour amener mon fils à l'école.
Ça va dérouler comme ça.
Ah ouais, c'était de toute façon. L'âge d'or de la SF était passé, on ne vendait pas autant que ça. Donc il fallait produire beaucoup, quoi, hein, sauf à faire des best-sellers, mais c'était assez difficile dans ces conditions-là, surtout avec une littérature comme ça, quoi. Puis en plus, je sais pas, je dois le faire exprès, mais je vais toujours dans la marge, là, quoi. Je vais toujours sur l'aspérité du concept. Donc ça limite le nombre de lecteurs parce que c'est soit trop violente, trop sexe, trop. Mais je ne peux pas m'empêcher en fait. À cette époque, si on voulait en vivre, moi j'avais pas accès au scénario, c'était pas l'époque encore, mais enfin, il n'y avait pas ces chaînes de télévision comme ça partout, il n'y avait pas cette demande. Il fallait vraiment écrire beaucoup pour espérer en survivre plutôt qu'en vivre. Ouais, donc j'en faisais beaucoup. Et puis, c'est un vrai apprentissage en fait. C'est-à-dire que pour moi, le roman populaire, ça a été mon école. J'ai pas cette anxiété de pas savoir où je vais quand je commence à écrire quelque chose. Je sais que cette gymnastique, je la connais. Je sais que je vais arriver au bout. J'ai pas d'angoisse par rapport au déroulement de l'action et à la fin du roman ou à la fin du scénario. À un moment, ça va s'imposer la fin, quoi.
Ouais, elle s'impose, elle arrive.
Ouais, voilà, et c'est toute cette école du roman populaire qui m'a appris ça. Parce qu'au début, au tout début, maintenant, dans les années 70, quoi, j'avais pas du tout le souffle pour écrire plus de 2 ou 3 pages. Hein.
C'est vrai.
Ah, j'écrivais des nouvelles ultra courtes, quoi. Je me voyais pas du tout écrire un roman, j'étais essoufflé tout de suite, quoi.
Ça s'apprend aussi, quoi.
Bien sûr, pour moi, le roman populaire, c'est une excellente école, quoi. C'est-à-dire que je fais une différence qui est peut-être un petit peu exagérée, mais entre les scénaristes qui viennent du roman et ceux qui n'ont jamais écrit le roman. Je sens la différence. Il y a une adresse chez les romanciers qui n'est pas chez les autres.
Un souffle qui permet de.
Ouais, il y a une espèce de technique qui est. Il y a un degré supérieur, quoi, en fait, d'écriture à la fois et puis de maîtrise. C'est pas de l'improvisation. Il faut quand même avoir l'écriture dans le sang et faut avoir mis les mains dans le moteur pour savoir comment ça marche.
Quel est votre rapport un petit peu à la science-fiction? Vous en avez écrit pas mal, Est-ce que vous en lisez encore? Vous avez toujours lu de la SF?
Oui, j'en lis toujours moins qu'avant. Parce que la télévision m'a complètement happé. Je suis un peu addict aux séries, quoi.
Ouais, c'est vrai.
J'ai même plus le temps de regarder tout, tellement il y en a.
C'est vrai.
Voilà. Mais donc tout ça prend du temps. Je joue beaucoup sur Internet, ça prend du temps aussi. Mais j'essaye de, bon, c'est par période, de lire les auteurs que j'ai pas encore découverts ou ceux que je connais déjà, mais c'est. Moins qu'avant. Avant, je lisais énormément, quoi. Mais bon, les séries ont pris un peu la place. J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde, sinon ça va tuer le livre complètement.
Et puis, dernière question. Vous disiez que vous auriez bien été un petit peu plus loin dans le cours, c'est-à-dire que s'il y a un projet de roman, ce sera de la SF.
Oui, David Kersan m'a demandé d'écrire un western. C'est tentant parce qu'il y a quelque chose de poisseux dans le western qui m'intéresse en fait.
Ouais.
Sauf que c'est tellement pas ma culture. C'est une culture que j'ai regardée en tant que spectateur, mais le Far West américain, c'est pas mon histoire à moi, quoi. Donc si je devais écrire quelque chose de poisseux, je préférais que ça se passe pendant la Révolution française, par exemple. Je pense que c'était assez gras, là. On pourrait peut-être...
En termes de poisseux, ça colle au mur, quand même.
Mais bon, ouais, le western, c'est le genre, mais encore une fois, je suis pas sûr que c'est beaucoup d'avenir. Mais c'est pas de la SF, là. Je sais pas... A priori, ouais, ce serait plus la SF, je vais pas en faire. Enfin, bon, si, je suis en train d'écrire Doberman 2, mais le film. Mais. Donc, on peut en faire un inédit aussi de ça. C'est là aussi, il y a une grande jubilation avec le Doberman, c'est quand même. j'ai vraiment appris à aimer ce personnage, quoi.
Ouais.
Et tout son entourage, parce qu'il y a quelque chose qui est. Qui est très 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 addictif pour moi dans le Doberman, en fait, c'est la solidarité qu'il y a entre ces membres du gang. Ils sont violents, mais ils se laissent pas tomber, quoi, en fait.
Ouais.
Et les clans, c'est quelque chose de très actuel, quoi. On sent bien que devant la difficulté, on a intérêt à resserrer les liens. Alors, c'est pas forcément des gangs ultra violents comme celui du Doberman. Mais même les familles ont intérêt à former des tribus, quoi, à pas se laisser tomber parce que ça craint. Même des épisodes hein, pas si lointains que ça, comme la canicule, on a vu que des pays comme la France en sortaient beaucoup plus mal que l'Italie, où il y a quand même des liens familiaux plus forts. C'est ça qui m'avait choqué. Quand j'avais vu Seven, à la fin de Seven, j'étais resté un quart d'heure sur le fauteuil. Je crois que j'étais avec Dantec d'ailleurs au cinéma. On était resté un quart d'heure cloué sur le fauteuil. Alors, ouf! Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Parce qu'en fait, le paradoxe, l'erreur dans Seven, c'est qu'on voit le côté spectaculaire que Danny Fincher retient quand le mec qu'on croyait mort, attaché sur son lit, d'un coup se redresse, tout le monde sursaute en disant, on retient ça. Mais l'horreur, elle n'est pas là. L'horreur est que ce mec a été torturé pendant un an, sans que personne s'en aperçoive. Il n'a pas de famille, pas d'amis, pas de voisins. Et d'un coup, le choc qu'on s'est pris comme ça, c'est se dire, c'est en train d'arriver ça, en fait. Cette solitude, quoi. Dans les cités, etc., les gens sont seuls, meurent seuls. Le pire peut arriver sans qu'on se rende compte. Et la non-communication dans Seven, elle est magistrale, quoi, en fait. C'est extraordinaire. C'est. Le fait que. Que la femme du flic de Brad Pitt ait demandé à son supérieur hiérarchique si elle doit lui dire qu'elle est enceinte, c'est n'importe quoi. C'est qu'en fait rien n'est direct. En fait, c'est tout.
Tout est codé.
Ouais, et c'est. On se dit que là, dans la non-communication ou dans la mauvaise communication, on a atteint un sommet. Quoi. Pourquoi je disais ça?
Pour le Doberman.
Oui, oui. C'est-à-dire que. En fait, c'est ce danger-là qu'il faut éloigner. Il faut vraiment. On voit bien dans tous les mouvements qui sont. Que ce soit Occupy Wall Street ou les insurgés, etc., les indignés. On voit bien qu'ils se retrouvent très vite ensemble.
Oui.
Et très nombreux. Etc. On sait, j'avais lu l'interview d'un économiste américain qui disait si ces gens-là, si le mouvement Occupy Wall Street réclamait quelque chose, ils l'obtiendraient. C'est-à-dire, s'il disait demain vous augmentez tous les salaires minimums des Américains de temps, il l'obtiendrait.
Ouais.
Et immédiatement, ça fait quand même 48 millions d'Américains qui touchent un salaire plus confortable. Mais ils ne le demandent pas. Ils ne demandent rien. C'est-à-dire que derrière ce rien, il y a tout. En fait.
C'est ça, c'est aussi la force. Enfin,
C'est la force et la faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a une puissance qui dit on ne veut plus de vous, on ne veut plus de ce système, mais ils ne savent pas comment ça. Comment... Oui, voilà, il n'y a pas de leader. Dans le mouvement des Anonymous, ce qui est fascinant, c'est ce leadership horizontal, en fait, où on n'a pas de tête à découper, ça vient du sous-commandant Marcos, quoi, en fait. On ne sait plus qui c'est, on ne sait pas où ça se trouve, etc. Bon. Mais ça a ses limites, ce système. C'est-à-dire qu'à un moment, aucune décision n'est prise. On est là, on représente une menace, et une menace pour ceux. Très sérieuse pour ceux qui exagèrent. Quoi. On voit bien que c'est des mouvements qui ont renversé des dictateurs, c'est quand même pas rien. Quoi. Mais derrière, on est dans le flou. Quoi. On se dit qui va récupérer ça? C'est-à-dire que l'histoire nous enseigne des choses barbares. Et merde, on fait une révolution, mais en fait, le pire arrive derrière. Quoi, en fait.
Ils sont pas encore au stade de la révolution, quoi.
Non, puis ouais, voilà, ils sont là. C'est voilà, comme le slogan des Anonymous, nous sommes légion.
Ouais, c'est ça.
Et nous vous regardons.
C'est clair. D'ailleurs, en France, les Indignés, ils ont pas pu, ils ont les accueillis à coups de chez nous.
Ouais. Mais bon, c'est. De toute façon, la nécessité fait loi, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes dans des pays où il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien, les conditions de survie deviennent vraiment tellement précaires, vous êtes obligé d'être solidaire, sinon vous allez mourir, quoi. D'un coup, vous vous retrouvez comme des pingouins sur la banquise, quand le blizzard souffle, il faut se regrouper et tourner en spirale, c'est obligé, sinon vous allez crever. Même si vous ne pouvez pas blairer votre voisin, vous allez tourner avec lui, pour ne pas mourir, quoi.
Est-ce que c'est pas là le gros espoir par rapport à ce que vous disiez?
C'en est un en tous les cas, ouais, bien sûr. Maintenant, c'est que faire. Il manque comme un mode d'emploi, quoi. Que faire pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait quand même une répartition des richesses un peu moins odieuse qu'aujourd'hui, quoi.
C'est clair.
Et là, c'est. On sent que c'est au bord, quoi. En fait, les choses sont là, grondent. Les murs de la cité tremblent, mais.
Ouais. Une question que j'aime bien poser aux écrivains, c'est leur rapport à leur personnage. Vous avez commencé à en parler, justement. Des plaisirs des retrouvailles avec le
personnage. Ouais.
Mais vous en parlez pas comme un personnage de roman. Vous parlez presque comme quelqu'un.
De qui?
Du Doberman, du clan.
Ah oui, du Doberman, oui, mais. Je m'identifie pas à lui, en fait. C'est j'ai jamais écrit de choses autobiographiques, mais forcément des choses de ma vie passent dans les romans. Quoi. Donc, mais par petites doses, comme ça, c'est des personnages dans lesquels je me reconnais plus, parce qu'il y a plus des parties de mon caractère. Doberman, c'est. Il a évolué aussi, hein, c'était un personnage très cynique au début quand même. Maintenant, il est moins, de moins en moins. Là, dans celui que je suis en train d'écrire, il est quand même beaucoup plus moderne. Il est très. Il est attentif à ces mouvements-là aussi, quand même, d'ailleurs. C'est pas encore Robin des Bois. Hein. Il redistribue pas le pognon tout de suite. Mais. Il y a quelque chose dans le Doberman qui est très bizarre. C'est le fait de. De jouer en fait. C'est pas un businessman le Doberman, il va pas faire fortune. Quoi. Et il y a une volonté de. Ce que dit son ennemi, d'ailleurs le flic, il dit mais on braque pas des banques pour le plaisir, c'est pas humain, mais c'est ce que fait le Doberman. En fait.
Là en termes de projet, du coup, il y a le Doberman 2.
Ouais.
Et après, vous voyez quoi? Sur quoi vous allez bosser?
Je sais pas encore, il y a des projets de télé, de série de SF d'ailleurs pour la télé. Ah. Aussi. Ouais. C'est clair que la SF, de toute façon, J'essaierai toujours de. J'ai écrit une série de SF, David Nolan, c'est la SF soft, hein, c'est pas invasif, quoi, mieux. Et qui a démontré qu'en fait il y a un vrai public pour la SF en France. On le sait. Il n'y a que les décideurs, les fraîchement sortis d'école de commerce qui n'y croient pas. Parce que les autres, David Nolan, ça avait 8 millions et demi de spectateurs. Ça a été le plus gros score de France Télévisions. C'était bien la preuve que la SF fonctionne, que le fantastique fonctionne. Il y a de toute façon, même on le sait depuis longtemps, qu'il y a une vraie tradition française de la SF, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont rétifs comme ça? Je sais pas. C'est très bizarre.
Ça marche moins ailleurs.
Au cinéma, si vous prenez les 10 best-sellers, les 10 films qui sont en tête du box-office, il y a 9 films de SF, quoi, pratiquement. Et vous avez des gens à la télévision française, ah non, non, le fantastique, non, on n'en veut pas, ça ne marche pas. Non, le public n'aime pas ça. Ouf, ben non, c'est le contraire.
On voit les succès de Doctor Who, notamment.
Ouais. Mais non, c'est des choses. Je sais pas où, mais Fringe, ça continue, par exemple. C'est des trucs. Ça tient la route. C'est vraiment des séries qui fonctionnent. Même en allant plus loin pour les chaînes câblées. Mais True Blood, franchement. Dans le grand n'importe quoi, j'avais jamais vu les Panthères Garous encore. Mais...
Mais ça, c'est le bonheur de la vie qui est aujourd'hui.
Il y a un type, il y a un ami qui m'a dit un truc extraordinaire sur True Blood.
Ouais.
Qui m'a dit, mais cette série elle est pas crédible du tout. C'est drôle, hein, quand on connaît True Blood, que quelqu'un dise ça. Il dit, ah ouais, pourquoi? Il dit, parce que les habitants de la petite ville où tout se passe, ils dorment tous la fenêtre ouverte, c'est pas crédible. J'ai trouvé cette remarque extraordinaire. En fait.
Puis surtout, il en reste des habitants de la petite ville. Quoi.
Oui, il en reste. C'est très mystérieux. Mais comme quoi, on peut aller vraiment très très loin et ça fonctionne. Il y a pas de. C'est un peu. Quand c'est bien fait, je veux dire, ça marche, quoi. Parce que là où les gens un peu décrochés de la SF aussi. Ça a été l'époque des surréalistes aussi, où il y avait trop de d'œuvres oniriques, où on laissait un peu le spectateur sur le bord de la route, ou le lecteur sur le bord de la route. Il fallait décoder, il fallait s'accrocher, etc. On en a laissé beaucoup, quoi. Mais toute la SF, là, on a quand même vécu une époque dure en France, hein, parce qu'on a quand même viré des mecs comme Tournier, quoi. Tourneur, Jacques Tourneur. La Féline, c'est français, quoi. Obligé de s'exiler aux États-Unis, c'est pas bien normal quand même.
C'est clair.
C'est des trucs où on a balancé le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y avait il existe toujours, il y a une vraie. Il n'y a pas un esprit français ultra cartésien qui serait anti-fantastique, ça n'existe pas, ça.
Beaucoup, hein, mais